Radio Campus. La science infuse.
Bonjour, bienvenue dans votre émission La Science Affuse sur Radio Campus Orléans. Nous sommes toujours à l'INRA d'Orléans, mais cette fois-ci pour dresser le portrait d'un chercheur, Daniel Sauvard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez en tant que chargé de recherche à l'unité de zoologie forestière, en particulier en écologie et en entomologie, donc l'étude des insectes finalement. Vous vous intéressez beaucoup à l'étude des capacités de dispersion des insectes, aux facteurs qui influencent cette expansion. Ça rentre d'ailleurs dans le thème de l'unité invasion biologique et réchauffement climatique. On va revenir là-dessus, mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu à votre parcours. Tout simplement, vous avez choisi quel cursus pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, un cursus universitaire ?
C'est un cursus assez classique, hein, que j'ai fait effectivement à l'époque une licence, une maîtrise, un DEA et puis une thèse. Bon, par ailleurs, je suis normalien, ce qui est un petit peu différent. Mais fondamentalement, c'est effectivement une formation universitaire.
Du coup, est-ce que c'était une vocation dès le début pour vous, la biologie, votre domaine d'études, ou ça s'est fait au fur et à mesure de vos années d'études ?
Non, ça relève plutôt de la vocation. Effectivement, j'ai toujours été intéressé par la biologie, et les insectes en particulier.
Donc vous me dites que vous avez réalisé une thèse. Quel était le sujet de cette thèse, du coup ?
Les capacités de reproduction d'une espèce de scolyte, qu'on appelle l'ilésine du pain.
Et ça s'est bien passé, vous l'avez réalisé dans quelle ville ?
Ici, je n'ai jamais bougé d'ici.
Alors, avant de rentrer à l'INRA, est-ce que vous êtes passé par d'autres organismes avant, d'autres laboratoires ?
Non. Moi, je suis rentré directement ici.
Et vous avez eu l'occasion de faire des stages dans votre carrière en tant qu'étudiant ?
Pas vraiment, non, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup moins que l'heure actuelle. J'ai visité un certain nombre de laboratoires, mais je n'ai jamais fait de stage au sens habituel du terme, tel qu'on l'entend aujourd'hui.
Alors justement, est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution de la recherche en termes de fonctionnement ou de financement par rapport aux années précédentes aujourd'hui ?
Oui, considérable. C'est-à-dire que quand je suis rentré à l'INRA, on avait des fonds pour faire de la recherche, alors que maintenant, on a des fonds qui servent tout juste à fonctionner de base et qu'on ne peut de fait travailler que si l'on a un projet de recherche.
C'est l'État qui fournit les sujets de recherche ou vous avez un mot à dire quand même sur vos propositions ?
C'est les financeurs, en fait, qui fournissent les sujets de recherche. On a un thème de recherche, donc on essaie de rester dans le thème, mais ça dépendra avant tout des projets sur lesquels on peut trouver.
Est-ce que vous avez des conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont peut-être dans le cursus scientifique, justement, pour ne pas se décourager, parce qu'on sait que des fois, les sujets d'études ou de thèses peuvent être compliqués.
Mon expérience est très très différente de ce que vous avez eu, ce qui existe à l'heure actuelle. Moi, j'ai jamais eu de problème de recherche, d'emploi ou autre. Dire de ne pas se décourager, oui, forcément. Mais c'est vrai que c'est pas facile du tout, dans la mesure où il y a de toute façon de moins en moins de postes. C'est pas du tout évident de s'insérer aujourd'hui sur le marché du travail, en particulier dans la recherche.
Vous avez jamais été confronté à une sorte de lassement, vous étiez toujours dans votre domaine passionné.
Au niveau du travail, non. Au niveau de l'organisme, ça peut arriver.
L'INRA d'Orléans est multidisciplinaire, il y a pas mal d'études différentes qui sont menées, en génétique, en biologie des populations, d'écologie entre autres. Et en ce qui vous concerne, sur quel projet travaillez-vous en ce moment ?
En ce moment, je finis deux projets, en fait, qui sont tous les deux concernent les capacités de vol des insectes, l'un sur le frelon asiatique et l'autre sur la pyrale du buis. Alors le thème commun aux deux, en fait, c'est que l'on essaie de savoir quelle est la part dans les capacités de dispersion de ces insectes, la part des capacités de dispersion propres à l'insecte, c'est-à-dire combien il est capable de voler de lui-même. Et donc c'est essentiellement sur cet aspect-là que je travaille. Et par rapport aux capacités de vol importées, c'est-à-dire en fait le déplacement des insectes par l'action de l'homme.
Donc vous étudiez la dispersion et vous utilisez peut-être des modélisations pour essayer de reproduire un comportement ex situ de l'insecte dans le laboratoire ?
Non, il y a une modélisatrice avec laquelle on travaille, mais moi je fais des études directes sur les capacités de vol des insectes en utilisant un appareil qu'on appelle un manège de vol ou un moulin de vol selon les interlocuteurs. Alors, c'est un système relativement simple, qui est très artificiel, c'est-à-dire qu'en fait, on a un bras qui tourne autour d'un axe, on fixe un insecte à l'extrémité d'un bras, et cet insecte, lorsqu'il essaie de voler, il entraîne le bras. Donc en fait, on a un détecteur au niveau du bras, et on compte le nombre de tours que fait l'insecte. Alors le gros intérêt de cette méthode, c'est qu'on peut avoir des données extrêmement précises, puisqu'en gros, on peut savoir à chaque mètre à quel moment cet insecte a fait un mètre à donner. Par contre, c'est des situations très artificielles, donc il faut toujours être extrêmement prudent lorsqu'on essaie d'extrapoler ces résultats dans la nature. Alors, par expérience, on s'aperçoit que souvent, ça donne des résultats qui sont en fait assez proches de ce que l'on peut estimer dans la nature. Alors, il est évident que si on utilise ce genre de choses, c'est parce que les insectes sont très difficiles à suivre dans la nature. Et que donc, on est obligé de prendre des voies un petit peu, parfois bizarres, qui peuvent sembler bizarres, mais pour arriver à avoir des données qui soient un peu précises. Par contre, c'est un système qui est extrêmement pratique lorsqu'on veut comparer deux situations différentes. Puisque là, on travaille exclusivement en laboratoire. Bon, les conditions restent artificielles, bien entendu, mais si on change par exemple la température, c'est la même situation artificielle dans les deux cas. Donc on peut savoir comment l'insecte réagit à ce facteur externe, par exemple la température.
Justement, avec la température, vous extrapolez ça par rapport au réchauffement climatique, c'est ça actuellement ?
Pas directement. Les insectes sont des animaux ectothermes, donc en fait, dont la température dépend assez plus ou moins directement de la température extérieure. Donc ils sont souvent très sensibles à cette température-là, ce changement climatique ou pas. Il est évident qu'après, si par exemple on voit que une température plus élevée favorise un insecte, il est évident que dans ce cadre du changement climatique, à mesure où la température a tendance à monter, cet insecte risque d'être plus virulent, puisqu'on travaille souvent sur des ravageurs, donc ça peut être un signal d'alerte. Mais ce n'est pas l'objet direct, c'est-à-dire qu'au niveau d'un laboratoire, on ne peut pas analyser directement les effets du changement climatique comme ça.
Legalize me.
Get free, come on.
Legalize.
De retour sur Radio Campus Orléans, dans l'émission La Science Infuse, où nous sommes toujours en compagnie de Daniel Sauvard, chargé de recherche à l'INRA d'Orléans, qui nous expliquait un petit peu les études et les projets qu'il menait là-bas. Une question peut-être plus pratique maintenant, mais finalement, que faites-vous des insectes après expérimentation? Bon, je crois connaître la réponse, mais enfin...
En général, les insectes qui rentrent dans un laboratoire d'entomologie en sortent rarement vivants. C'est une caractéristique assez générale, pas qu'on tienne absolument à les tuer, mais en général, si on les importe, c'est pour en faire quelque chose. Et bon, après, effectivement, comme beaucoup d'insectes en plus ont une durée de vie extrêmement faible, il est souvent, de toute façon, il serait souvent illusoire de les libérer après. Même si on ne les garde pas, comme un certain nombre d'études, de toute façon, on les garde jusqu'à ce qu'ils meurent. Naturellement, enfin naturellement entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne les tue pas. Dans ces cas-là, évidemment, on ne peut pas les libérer après. Mais il est assez difficile d'imaginer, enfin il y a assez peu d'études pour lesquelles on pourrait prendre des insectes, les étudier et les relâcher après.
Mais peut-être aussi parce que c'est des insectes qui sont potentiellement dangereux aussi que vous étudiez.
Effectivement, en plus, on travaille sur des insectes qui sont soit des ravageurs, soit qui sont potentiellement dangereux, mais ce n'est pas absolument systématique. Mais après, ça dépend aussi de ce que l'on veut faire comme étude. Il est évident que si on veut faire une analyse physiologique qui implique de broyer l'insecte, on ne peut pas le lâcher après. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a assez peu d'études pour lesquelles l'insecte sera suffisamment intact pour qu'on puisse le relâcher après. Même si, effectivement, si on a travaillé à un moment sur des espèces protégées comme une Grahelsia, celle-là, effectivement, on essaye autant que possible de limiter l'impact dans la nature.
D'accord. Et sinon, vos journées, est-ce que vous avez une journée type quand vous arrivez au laboratoire? À quoi se résument vos activités dans votre bureau?
Les journées sont extrêmement variables, parce que ça dépend en fait de l'équilibre entre les différentes activités qui changent selon la saison. Il y a effectivement les activités d'expérimentation qui sont en général dans un labo, voire en extérieur. Et puis les activités d'analyse de données, de recherche de données, enfin d'informations. Et puis de rédaction qui, elles, se font dans le bureau. Et en plus, quelques activités administratives. Donc, selon les journées, l'importance relative de ces différents éléments est totalement différente.
Est-ce que vous avez un nombre particulier d'articles à soumettre, de publications à réaliser par an ou en termes de durée?
Il n'y a, à ma connaissance, pas de chiffre officiel. Mais je suis censé publier. Actuellement, je rédige un article en particulier sur le frelon, et je vais en préparer un très rapidement sur la pyrale.
La pyrale du buis avec Audrey, que j'ai pu voir du coup.
Comme dans sa thèse, il y a une partie manège de vol sur la pyrale, dans ce cas-là, j'ai travaillé avec elle là-dessus, puisque c'est moi qui connaissais la technique au départ.
Cette technique de manège de vol, on revient dessus, mais vous l'avez inventée en quelque sorte, ou vous êtes servi d'autres modèles que vous avez pu voir?
Donc la technique existe depuis au moins 40 ans. Par contre, le manège de vol que j'utilise, je l'ai conçu et construit.
Et vous l'avez conçu à partir de matériaux basiques? Vous avez peiné à le faire ou non? C'était facile?
Techniquement, le manège lui-même, c'est très simple. Il faut, le problème étant de trouver un système qui est suffisamment peu de frottement pour que ce soit négligeable au niveau de l'insecte. Alors, dans le cas des insectes sur lesquels j'ai travaillé, ce sont des insectes relativement gros pour des insectes, donc le problème a été relativement réduit. Par contre, ce qui est compliqué, c'est le détecteur. Et effectivement, le premier détecteur a été fait en collaboration avec un ingénieur qui était ici il y a quelques années. C'est lui qui avait écrit le premier programme. Par contre, j'en ai reconçu un nouveau système en entier à partir d'un Raspberry Pi, qui est un micro-ordinateur, enfin un mini-ordinateur, ou nano-ordinateur, je sais pas. Quel est le terme exact?
Très petit, oui.
Qui a la taille effectivement d'une carte de crédit.
D'accord.
Et sur lequel on peut mettre un système Linux et on peut programmer dessus.
Alors pour finir, est-ce qu'on peut conclure quelque chose sur l'expansion des insectes? Est-ce que l'homme a un incident là-dedans du coup? Il y a quelque chose de vraiment concret qu'on a pu observer?
Oui, sur les insectes, on voit effectivement l'action de l'homme. Alors le plus évident, ce sont les invasifs. Puisqu'il est évident que le frelon asiatique n'est pas venu directement de Chine en Europe tout seul. On l'a amené. C'est le cas de beaucoup d'insectes comme la pyrale du buis, qui a également été amenée. Et on constate également des changements qui sont liés, lui, au réchauffement climatique en Europe. C'est-à-dire qu'on observe, au niveau de l'insecte, on ne peut pas travaillent directement sur le changement climatique. Et ce que l'on constate, en fait, sur des insectes qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont sensibles à la température, on a des phénomènes d'expansion vers le nord, ou de déplacement vers le nord. C'est-à-dire que des insectes que l'on trouvait avant que dans les zones méditerranéennes se retrouvent maintenant dans des zones continentales. Simplement parce que c'est parallèle à l'augmentation de température. Dans le cas de la procession de l'heure et du pain, on connaît, on a pu déterminer le pourquoi, le fonctionnement de cette expansion. C'est-à-dire que la prostitution du pain, qui est un insecte dont les larves se développent l'hiver, est très sensible au froid hivernal.
Et donc, si la température augmente par conséquent.
Voilà. C'est-à-dire que si la température augmente, les zones dans lesquelles ils ne survivaient pas tout simplement parce que les larves mouraient pendant l'hiver sont devenues favorables. Et par exemple, toutes les régions au nord de la Loire, jusqu'au début des années 90, était défavorable, on a pu le montrer par les enregistrements de température et les expériences, était défavorable en fait au développement de cet insecte, et donc effectivement il n'y existait pas. Alors que depuis 1990, la disparition des hivers très froids a fait que toute cette zone, et probablement une grande partie du nord de la France, sont devenues favorables à la procédure du pin. Ce qui lui permet de remonter. Ce qui limite actuellement l'expansion de la procédure du pin, c'est ses capacités de dispersion qui sont relativement faibles, quelques kilomètres par an.
D'accord.
Mais toute la zone nord de la France est devenue favorable en fait à cet insecte.
Donc il faudrait penser du coup à essayer de trouver des moyens de lutte à ces niveaux-là peut-être.
Pour le cas de la procédure du pin, effectivement, le moyen de lutte, c'est réduire le réchauffement climatique. Sachant que le climat a quand même une inertie très importante. C'est-à-dire que même si on arrêtait tout de suite, aujourd'hui, de lancer des gaz à effet de serre, l'effet cumulé de ce qui a déjà été lancé dans l'atmosphère va durer pendant des décennies, voire des siècles. Mais ça, il faut demander. C'est une question à poser directement aux climatologues.
Oui. D'accord. Bien, merci beaucoup, Daniel Sauvard, pour votre temps et pour vos explications.
De rien.
Bonne continuation dans vos recherches, du coup.